Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour...
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net, et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les filmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission teintée de science-fiction avec une petite pointe de fantastique dedans. Voilà, alors on va revenir durant l'heure d'émission d'aujourd'hui sur La planète sauvage de René Laloux, hein, qui est sorti dans une très belle édition chez Potemkin. Et on va revenir sur ce film en compagnie de Fabrice Blin, qui est co-auteur avec Xavier Kawatopor de l'ouvrage L'Odyssée de la planète sauvage, paru chez Capricci. Nous aborderons également Les ailes du désir de Wim Wenders, qui est sorti chez Carlotta Films. Et puis nous nous aventurerons du côté de chez Rimini Éditions pour deux films, Bunker Palace Hotel d'Enki Bilal et La fusée de l'épouvante d'Edward L. Kahn. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Lucie Mautier, Emma Perreur, Thierry Vidot, François Villa et Jean-Pierre Vasseur pour leur aide sur cette émission. Une émission qui, nous vous le rappelons, est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur theextasyofilm.com, sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et chez tous les bons libraires. Pour causer SF et fantastique, je suis aujourd'hui accompagné de mes deux acolytes préférés. Damien Demé dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous entendent.
Également présent dans ce studio, le loup-garou Picard. De son vrai nom Thomas Roland, en fait, hein, c'est beaucoup moins impressionnant, qui chaque nuit de pleine lune rédige deux sanglants écrits pour la revue Prime Cut, dont il est le rédacteur en chef. Hi Thomas.
Hello GG, hello Damien et hello à toutes évidemment.
La première partie de notre émission va aujourd'hui être consacrée à ce qu'on peut appeler un classique, hein, du film d'animation et de la science-fiction. Un film sur lequel ont collaboré René Laloux et Roland Topor, avec une super musique d'Alain Goraguer. Enfin voilà, une coproduction très improbable entre la France et la Tchécoslovaquie. On est en 1973 quand le film sort. C'est adapté du roman Homs en série de Stéphane Houl et c'est réalisé par René Laloux. Ça s'appelle La planète sauvage. Donc c'est ressorti chez Potemkin et dans les minutes qui suivent, on écoutera aussi Fabrice Blin qui est co-auteur de l'ouvrage L'Odyssée de la planète sauvage qui est paru chez Capricci. Mais dans un premier temps, je vais laisser la parole à notre ami Thomas Roland, qui va nous parler un peu de cette planète sauvage.
En réalisant La planète sauvage, René Laloux marque une date dans le cinéma français parce qu'il signe le premier film d'animation qui s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. La planète sauvage, donc, tu l'as dit, c'est l'adaptation d'un roman de Stéphane Houle, Homme en série. Et c'est un film qui est Qui est très beau esthétiquement, hein, c'est d'après des dessins de Roland Topor. C'est la troisième collaboration entre Roland Topor et René Laloux. Ils avaient déjà fait deux courts-métrages ensemble. Et là, donc c'est leur première collaboration sur un premier long-métrage. C'est le premier long-métrage de René Laloux. Et c'est un film qui est très beau, qui est très poétique. Hein. On est vraiment dans un univers de science-fiction avec des créatures très particulières. Et le film est court, mais en même temps, le film, il y a quelque chose d'assez contemplatif. Il y a des scènes qui arrivent là, qui ne s'imbriquent pas vraiment dans le récit. À un moment, ils chassent une espèce de dragon. Et on voit des animaux qui en bouffent d'autres. Et il y a vraiment, ils installent vraiment, avec Roland Topor, ils installent vraiment une atmosphère, une ambiance très particulière entre le cauchemar et la poésie. Et c'est un film aussi qui parle de l'esclavage, hein, ni plus ni moins, qui parle de la cruauté quelque part de l'homme, parce que ce sont donc les hommes sont réduits en esclavage, en animaux domestiques, par des espèces de géants bleus. Alors on ne sait pas comment, pourquoi. Apparemment la terre aurait été désertée, il se serait passé quelque chose à nos locaux. Enfin on ne sait pas quoi. Et ça commence par on voit une femme avec son enfant qui essaye de fuir, puis tout d'un coup on voit une main bleue qui rentre dans le cadre, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Et finalement, quelque part, ces hommes bleus, c'est un peu nous quand on est enfant et qu'on joue avec des animaux, quand on est cruel avec des animaux, des insectes, etc. Quelque part, c'est un peu ça. Et le film, on peut dire qu'il est précurseur par rapport à son discours sur l'écologie, etc. Donc, effectivement, La planète sauvage, encore aujourd'hui, est un film... quelque part avant-gardiste, encore avant-gardiste à son époque, en 73, et qui est toujours visible. Moi, je trouve qu'il n'a pas vieilli. Moi, je trouve pas que c'est un film qui est vieilli et qui est toujours parfaitement visible par toutes les générations.
Je suis d'accord avec toi, Thomas, ça a gardé toute sa visibilité et c'est un film qui a énormément marqué. Donc, il fait date dans l'histoire du cinéma français, mais aussi pour le monde entier, vu que les Américains l'ont un peu redécouvert récemment, ils s'en inspirent énormément. Alors, parmi les choses qui sont intéressantes, c'est notamment le temps qu'il prend, notamment pour poser les rites, pour poser son univers, son environnement. Et c'est quelque chose qu'il fait, mais pas anodinement, parce qu'on est dans un univers de post-apo, mais un peu particulier, parce que c'est pas du post-apo à la Mad Max, où la civilisation vient de tomber, il y a des survivants. C'est une post-apo où une autre civilisation s'est reconstruite derrière. On est un peu dans une post-apo directement à la Dune ou à la Adventure Time, voire à la planète des singes. Et il y a quelque chose qui est assez intemporel et qui montre que c'est un film qui a beaucoup marqué. L'année dernière, en 2023, il y a une série qui est sortie animée qui s'appelle Scavengers Reign, qui est fait par Joseph Bennett et Charles Hutner. Et la façon dont ils utilisent leur environnement entre beauté et dangerosité, ce qu'on retrouve parfaitement dans La planète sauvage, ben, eux le réutilisent dans la série. Et ça se voit parce qu'au niveau de l'animation, ils sont extrêmement proches. C'est vraiment un film qui a infusé à travers l'histoire, le cinéma, les séries, en fait, une partie de notre culture.
Pour en savoir plus sur La planète sauvage, eh bien, nous allons tout de suite contacter l'ami Fabrice Blin. Alors Fabrice Blin, lui, il était déjà venu dans cette émission parce que il n'est pas que auteur d'ouvrages sur le cinéma, il en a écrit quelques-uns, on va en parler avec lui, mais il a aussi réalisé par exemple le très beau documentaire Super 8 Madness, on en avait parlé dans l'émission. Il a aussi réalisé des films de fiction, La chose derrière la porte, Mandragore qui a été tourné à quelques kilomètres de notre studio. Et il se trouve qu'il est totalement passionné par René Laloux. Et avec, du coup, Xavier Kawa-Topor, il a coécrit l'ouvrage L'Odyssée de la planète sauvage qui est paru chez Capricci, et que donc on vous conseille en complément du film, édité par Potemkin. Donc tout de suite, Fabrice Blin au micro de Culture Prohibée. Fabrice, peux-tu nous présenter, comment dire, ce marginal hein, qui était René Laloux, auquel donc tu avais déjà consacré un ouvrage en 2004 qui s'appelait Les mondes fantastiques de René Laloux.
Exact. Écoute, c'est marrant, ça fait donc 20 ans hein, presque que j'ai fait ce premier livre sur René Laloux qui retraçait un peu son parcours d'une façon générale. Pour te le présenter brièvement, c'est René Laloux, ça a longtemps été notre seul réalisateur de long métrage d'animation en France, et je dirais même en Europe, si je ne dis pas de bêtises, pendant longtemps, et aussi le seul à s'intéresser à la science-fiction. Alors ça paraît bête comme ça, mais là on parle de son premier film qui remonte à 1973, La planète sauvage. À l'époque, il n'y avait pas de dessin animé de science-fiction, ça n'existait pas, ou alors très très peu, il y avait peut-être... Je me demande si au Japon, il n'y avait pas Astro le robot, mais en tout cas, voilà, la vague de la science-fiction en animation, même au Japon, n'était pas encore aussi répandue qu'elle a pu l'être par la suite. Donc c'est un précurseur, René Laloux, c'est un vrai précurseur en France, et je dirais donc dans le monde entier, hein, par la force des choses, puisque La planète sauvage a inspiré des tas et des tas et des tas d'artistes, et dans tous les domaines. C'est ça qui est marrant, c'est-à-dire que ce film de science-fiction un peu fauché, tourné... entre la France et la Tchécoslovaquie à la fin des années 60 jusqu'au début des années 70, sorti en 73 donc, ce film a inspiré des gens comme Miyazaki, clairement, avec son, en tout cas pour son premier long métrage Nausicaa, qui était vraiment, enfin qui a vraiment des points communs thématiques, esthétiques avec le film de Laloux, mais aussi on peut parler d'Avatar, hein, avec ses géants bleus, donc un James Cameron a, à mon avis, vu un moment ou un autre, La planète sauvage. Je ne suis pas en train de dire qu'il a copié La planète sauvage, mais c'est rentré dans son ADN. Et je pense que c'est ça la force des films de Laloux, hein, donc La planète sauvage, puis plus tard Les maîtres du temps dans les années 80 et enfin Gandhar en 87. Ces films marquent en fait. Quand on les a vus, on ne les oublie pas. On les aime ou on ne les aime pas, ça c'est une autre histoire, mais ils marquent. C'est-à-dire que, d'autant plus quand on les voit jeunes. C'est-à-dire que je m'aperçois que comme ces films sont presque tous séparés de 10 ans, Laloux a fait que 3 longs métrages, mais qui ont marqué presque 3 générations différentes. Quoi. La planète sauvage, Les maîtres du temps, c'est un peu ma génération, et puis Gandhar, une génération un petit peu après. Donc voilà, en gros. Mais alors, ce qu'il faut retenir pour terminer ma petite présentation de Laloux, c'est que c'est un monsieur qui a fait toujours des films de pauvres, il le disait lui-même, des films sans budget, des films pour lesquels il fallait qu'il se batte tout le temps, qu'il a été obligé d'aller tourner en Est parce que ça coûtait moins cher, et qui sont devenus cultes avec le temps. Mais c'est un monsieur qui est mort dans la misère. Hein.
Est-ce que tu peux nous présenter un tout petit peu plus le film là qui vient de ressortir, donc La planète sauvage ?
Oui, alors, donc, comme je disais, La planète sauvage, c'est son premier long métrage. Il a commencé en fait à faire des courts-métrages. Alors, au tout début même, il a fait un court-métrage presque par hasard avec les malades de la clinique de la Borde. C'était une clinique qu'on disait à l'époque antipsychiatrique, c'est-à-dire que c'était une clinique qui accueillait des malades mentaux, mais qui utilisait des modes de traitement, je dirais, qui soignait les gens, en tout cas d'une façon relativement moderne à l'époque, et notamment par le biais d'activités artistiques. Et Laloux, il se trouve que un peu par hasard, il était là comme moniteur. Hein. Il avait, je sais pas, il était à la fin de sa vingtaine, il avait pas loin de 30 ans, et il faisait donc des activités artistiques comme ça en tant que moniteur avec les malades. Et puis, ouais, c'était des spectacles donc d'ombre chinoise, de marionnettes. Et puis un jour, pourquoi pas, il s'est lancé dans l'essayer de faire un court-métrage avec un court-métrage d'animation, c'est ce qu'il y avait de moins cher, en paquet découpé, hein, c'est-à-dire qu'on découpe des personnages, on les anime sous la caméra, image par image. Et ce film s'appelait Les Dents du Singe. Là, on est en 1960, si je ne dis pas de bêtises. Et ce film, curieusement, a été fait, finalisé avec les malades, réalisé par Laloux, au final, hein, qui était un peu le chef d'équipe de toute cette équipe un peu hétéroclite, et finalement diffusé en festival, et ça a eu un grand succès, en tout cas pour l'époque où il y avait assez peu de films d'animation qui circulaient, surtout venant de France. Les festivals ont été vraiment intéressés par cette espèce d'ovni, quoi, cette espèce de film bizarre fait par des malades mentaux, un univers très étrange, un peu surréaliste, et un certain Roland Topor, qui à l'époque était tout jeune, mais qui était déjà un peu connu, est tombé sur ce film et a adoré. Donc ils se sont rencontrés, ça a été la rencontre Laloux-Topor, qui a donné, pour la faire rapide, plusieurs courts-métrages, dont un qui s'appelle Les Escargots, qui était du fantastique un peu mêlé de SF, déjà. Et finalement, devant le succès, encore une fois, des Escargots, là, puisque les courts-métrages de Laloux avaient tendance à bien marcher en festival, les producteurs des Escargots ont dit pourquoi pas faire un long-métrage d'animation Topor-Laloux. Donc Laloux au scénario et à la réalisation, et Topor au scénario et au dessin. Ça peut paraître évident comme ça, mais à l'époque, c'était en France, il y avait juste eu un seul film d'animation de long métrage qui avait été fait. C'était La Bergère et le Ramoneur, qui est devenu après, dans les années 80, Le Roi et l'Oiseau, hein, le film de Paul Grimaud, qui était sorti en 1953, donc là on est presque 20 ans avant ce que va faire Lalou avec la planète sauvage, et qui avait fait un bide énorme, au point que en France aucun producteur ne voulait produire d'animation et de long métrage surtout d'animation, parce qu'on disait que en gros, à part Disney, personne ne savait faire ça, il fallait beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et en France, on n'avait pas le savoir-faire, on n'avait pas cette culture. Enfin, c'est un discours qu'on entend encore aujourd'hui sur plein de choses, notamment quand on parle de cinéma de genre. Mais voilà, on avait toujours ce complexe comme ça de ne pas savoir faire aussi bien que les autres. Et ça n'a pas, découragé Lalou et Topor qui se sont lancés dans l'aventure. Sauf que le film, il a été lancé en 67 et il est sorti en 73. Donc voilà, ça a été une longue aventure, le parcours obligatoire des films faits sans argent et des films un peu novateurs aussi.
Dans l'Odyssée de la planète sauvage, donc le livre que tu coécris avec Xavier Kawatopor qui est paru chez Capricci, et décortiquer l'adaptation quand même qui s'est révélée compliquée du roman Homme en série de Stéphane Wool, puisque c'est une adaptation ce film.
Oui, alors complètement, parce que Lalou et Topor étaient très fans de science-fiction. Puis pour situer aussi l'époque, on est dans les années 60, fin 60, la science-fiction est très à la mode. Là, on est à la sortie de La Planète des Singes, qui avait cartonné à l'époque, pour citer que ça, mais qui était l'un des premiers, selon moi, l'un des premiers grands films à la fois populaires, gros budget et intelligents, avec un vrai fond philosophique et tout, de science-fiction. Donc là, je parle de La Planète des Singes, qui, entre parenthèses, est d'après aussi un... tiré d'un roman de Pierre Boulle, un roman français de science-fiction. Mais donc voilà, on est dans cette époque-là et il y a un vrai intérêt de la part et du public et des producteurs et de Lalou et Topor pour la SF. Donc ils se sont dit, pourquoi pas adapter un auteur de SF français. Et puis ils étaient super fans de l'œuvre de Stéphane Wool, qui était vraiment, alors qu'il ne s'appelait pas du tout comme ça, il s'appelait Pierre Perrault, il était dentiste. Et voilà, Stéphane Wool, c'était vraiment le pseudo qui le rendait un peu mystérieux et on ne savait pas trop s'il était français, allemand, américain. Mais finalement, ce Stéphane Wool n'aurait écrit que 10 romans de science-fiction, mais qui sont devenus cultes, vraiment, qui le sont encore aujourd'hui, dont un qui est très célèbre, qui s'appelle Nourk, qui est superbe. Et Lalou et Topor se sont dit, il faut qu'on adapte Homme sans série, parce que c'est super, il y a toutes les thématiques qu'on aime dedans. On y reviendra, si tu veux, d'ailleurs, sur les thématiques abordées par le film. Mais en tout cas, ça leur paraissait une matière suffisamment riche pour donner matière à un long métrage. Mais sauf que, encore une fois, l'animation et la science-fiction n'étaient pas du tout monnaie courante à l'époque. Donc, ils sont même demandé à un moment si ça allait être faisable. Quand ils se sont embarqués là-dedans, puis ils se sont dit attends, on va peut-être pas se lancer là-dedans, parce que qui va s'intéresser, quel public même va s'intéresser finalement à une histoire de science-fiction bizarre, avec des dessins de Topor qui n'était pas d'ailleurs quelqu'un issu de la science-fiction, c'est-à-dire que son mode de dessin ressemble plus à, enfin son style graphique ressemble plus à de la gravure, il est un peu classique. Donc je pense qu'avant que le film existe, même eux, les auteurs, ont eu un grand moment de doute sur la faisabilité du projet.
Vous écoutez Fabrice Blin, co-auteur avec Xavier Kawatopor de l'Odyssée de la planète sauvage, paru chez Capricci, au micro de Culture Prohibée. Rien n'a été simple, en fait. C'est ce qu'on découvre dans le livre. Tout à l'heure, tu parlais du travail avec les pays de l'Est, en l'occurrence avec les autorités tchèques, qui vont quitter brutalement le film, enfin la production, alors que le film n'est pas terminé, ce qui va obliger Lalou à modifier son film. Il y aura aussi un moment, un départ de Roland Topor. Enfin, c'est un film, c'est une longue lutte, ce film.
C'est une odyssée, oui. C'est vraiment... La fabrication du film est presque aussi dantesque que ce que le film montre à l'image. Et alors, pour corriger les petites choses que tu viens de dire, l'un des grands problèmes, et ça a même été source de conflit qui est survenu dès le départ, à partir du moment où le scénario a été écrit et que la production du film a commencé, c'est que Topor a dit « Ah ben non, finalement, je ne vais pas venir en Tchécoslovaquie avec toi », il a dit ça à Lalou, parce que ma mère pense que c'est pas bon pour ma carrière et voilà. Donc faut remettre le truc dans le contexte. C'est-à-dire que on avait un jeune Roland Topor, enfin bon quand même, qui avait pas loin de la trentaine, hein, qui avait un plan de carrière, hein, et qui se disait non, je veux pas passer. À l'époque, il pensait que ça allait durer 2 ans. Je veux pas passer 2 ans de ma vie en Tchécoslovaquie à travailler sur un seul projet. C'était inconcevable pour lui. Donc en gros, il a laissé Lalou tout seul. Il avait fourni toute une série de beaux dessins préparatoires et tout, mais Lalou s'est retrouvé tout seul, seul français en Tchécoslovaquie, ne parlant pas évidemment la langue sur place. Vraiment perdu et assez furieux contre Topor parce que il s'est senti un peu trahi quoi. Donc voilà, ça c'était voilà ce que je voulais préciser, c'est que Topor a jamais vraiment participé au film à part en amont, pas du tout pendant sa création. Et pour revenir à la Tchécoslovaquie, ben, le pays a été choisi parce que en fait tout simplement c'était trop cher de faire ça en France. Il n'y avait pas de studio d'animation en France aussi, il faut voir ça. Hein. Il n'y avait pas de structure suffisamment solide en tout cas pour accueillir du long métrage. Et puis ça coûtait trop cher. Enfin, voilà. Donc il y a eu un accord. Là. Je crois que c'est un studio tchèque de l'époque qui a fait une offre à la France pour une coproduction. Donc évidemment, les producteurs se sont jetés là-dessus. D'autant plus qu'à l'époque, la Tchécoslovaquie, on disait encore la Tchécoslovaquie, était vraiment un pays où il y a une vraie culture du film d'animation. Il y avait vraiment un savoir-faire. Il y avait des gens comme Gary Klinka, Karel Zeman, enfin voilà, il y avait vraiment toute une culture, une école, on va dire, de l'animation. Donc, je pense que Lalou en a vraiment bénéficié sur son film. Ça, c'était l'un des côtés positifs, je dirais. C'est-à-dire, quand il arrive en Tchécoslovaquie, ils avaient du mal, évidemment, à comprendre le sujet de science-fiction. Au-dessus de. Alors, ça, c'était les artistes dont je parle, ça allait, hein. Mais au-dessus de tout ça, il y avait évidemment les politiques. Et eux voyaient d'un très mauvais œil, en fait, ce Lalou qui leur avait été imposé. Ils ont essayé de le virer. Ils ont essayé de le faire remplacer par un animateur tchèque à la réalisation de La Planète Sauvage. Enfin, ils ont tout essayé. Ils ont pourri la vie pendant 4 ans, parce que finalement, au lieu de durer 2 ans, ça a duré 4 ans. Vous imaginez quand même l'aventure que c'est. Hein. Avec entre-temps, en 68, le printemps de Prague, c'est-à-dire qu'en gros, en Tchécoslovaquie, il y avait une version light un peu du communisme là, qui a duré quelques mois. Qui plaisait pas trop à Moscou, et finalement Moscou a tapé du poing sur la table et a envoyé les chars et les troupes à Prague reprendre le contrôle un peu, parce qu'ils estimaient que c'était que ça partait pas dans une direction qui les satisfaisait. Ça leur faisait peur de voir un peu ce vent de liberté qui soufflait sur la Tchécoslovaquie. Et Lalou était en plein milieu pendant ces événements-là, en train de faire son film. Donc tout s'est arrêté. L'équipe qui a, alors je parle pas encore une fois de l'équipe artistique, mais l'équipe, enfin en tout cas par exemple le président du, ou je sais pas comment on disait, le directeur du studio a été remplacé, quelqu'un de plus proche de Moscou a été placé à la place de l'ancien, ils ont fait le ménage un peu là-dedans, et du coup ils ont arrêté le projet pendant presque 6 mois. Il faut voir quand même ce que c'est quand on se lance pour un long métrage comme ça, puis tout d'un coup il se passe plus rien pendant 6 mois pendant lesquels Lalou est remis en France. Ça n'a pas été facile. Donc finalement, ils ont réussi avec les producteurs et je crois même pas grâce à l'intervention de Paul Grimaud à dîner un espèce d'accord qui satisfaisait tout le monde. Lalou est retourné, enfin est revenu à Prague. Il a repris le cours du tournage et voilà, ça s'est fait quand même. Mais ça a été infernal et surtout au quotidien, ça a été infernal par des petites humiliations, des petites choses un peu permanentes lui rappelant que il était un méchant capitaliste et que en gros son film venait pour. Enfin, les gens, enfin, en tout cas les politiques, le voyaient comme un film qui pervertissait les animateurs, puisqu'ils voyaient vraiment les dragues, les grands personnages bleus du film, comme les communistes, donc eux-mêmes, et les petits hommes qui se révoltaient contre eux, c'était les capitalistes, quoi. Donc il y avait vraiment une espèce d'incompréhension là, et de parano un peu global pendant tout le tournage du film à Prague.
Alors, en plus, on aurait plutôt pu inverser, si on se fie à... au film en lui-même, oui. Inverser, ils auraient mieux fait d'inverser le point de vue. Tu l'as rappelé, c'est rappelé aussi dans le livre, hein, L'Odyssée de la planète sauvage qui est paru chez Capricci, tu l'as rappelé, effectivement, la réalisation est entièrement le travail d'un seul homme, René Lalou. Ça a été un combat, on vient de le dire aussi. Le film porte des thématiques plutôt émancipatrices, d'ailleurs, hein, c'est très intéressant. Il va avoir plein de récompenses, tout ça. Malgré tout, la carrière de Lalou ne va pas spécialement décoller, parce que malgré tout le tapage que le film, d'un point de vue critique, va faire à Cannes en 73. Aujourd'hui, ressort La Planète Sauvage en salle. Il y a des ressorties en Blu-ray. Il y a aussi Gandhar qui ressort dans une très belle édition. Il y avait déjà eu des belles éditions DVD. Qu'est-ce que tu penses de ce revival René Lalou? Puis est-ce que c'est pas induit justement par les fameuses thématiques développées dans ces films qui sont d'une incroyable modernité en fait?
Je pense qu'il y a deux choses. Effectivement, les thématiques sont modernes. Elles étaient révolutionnaires à l'époque où il les traitait. Elles sont malheureusement toujours d'actualité. Hein. Je veux dire, tous ces thèmes politiques, ces thèmes de devoir lutter pour la tolérance, la différence. Enfin, voilà. Ils sont prêchants en plus. Hein. C'est-à-dire que je trouve que justement, c'est aussi la force des films de Lalou. C'est que c'est jamais donneur de leçons. C'est-à-dire que c'est au détour d'une histoire de science-fiction, parce que la science-fiction a ça de comme le fantastique, hein, à cette force de pouvoir comme ça, par le biais d'un spectacle distrayant, hein, souvent, faire réfléchir. Et c'était vraiment ça. Et c'est-à-dire que Lalou était comme ça. C'est un type avec assez complexe, avec plusieurs facettes de sa personnalité. Et ses films sont à son image. Donc je pense que oui, c'est ça qui fait que ses films tiennent encore le coup aujourd'hui. C'est-à-dire que, et surtout La Planète Sauvage, probablement, parce qu'il était tellement novateur à l'époque, mais c'est qu'il y a vraiment du fond. Un film qui n'est pas martelé et qui, et puis par les gens, bah, le monde s'est pas forcément arrangé depuis, ce qui fait que on fait toujours, enfin, les humains font toujours les mêmes conneries, les mêmes erreurs et on est un peu en boucle, ce qui fait que ces thématiques sont immortelles et éternelles et oui, je veux dire, ils nous parlent, quoi. Quand on voit ces films, on comprend pourquoi il désirait faire de l'anti-Disney, hein. Même s'il avait du respect pour les qualités techniques des films de Disney, mais tout ce que ces films racontaient, avait plus tendance à abêtir que c'était un peu trop nié pour lui. Donc, il avait des choses à dire. Il les a dit à travers ses films qui sont, encore une fois, un peu fauchés, mais tellement généreux, tellement imaginatifs, tellement originaux pour l'époque, que oui, forcément, on en parle encore aujourd'hui et même on le redécouvre aujourd'hui. Moi, je suis super content. Moi qui ai écrit un bouquin sur lui il y a 20 ans et j'avais mis à l'époque 8 ans pour trouver un éditeur, hein, tellement ça n'intéressait personne. Je veux dire, même lui qui a pas pu faire ses films, surtout lui même, hein, qui a pu faire que 3 films, alors c'est déjà pas mal on peut dire, mais pas beaucoup quoi, il a pu faire que 3 films alors qu'il avait tellement d'autres choses à dire, d'autres projets passionnants qu'il aurait pu faire, et bien quelque part c'est un peu le flambeau qui est repris aujourd'hui, c'est-à-dire que même si c'est un dire qu'il n'y a pas de René Lalou, il n'y a pas de clone de René Lalou, mais son œuvre, ses films, ses thématiques sont vraiment, on les retrouve partout, quoi. C'est ça que je trouve vraiment passionnant. Et comme si les films avaient eu besoin de mûrir, ou en tout cas plus même, pas tant les films, mais les spectateurs et le public avait eu besoin comme ça de 50 ans, hein, puisque ça fait en fait les 50 ans de La Planète Sauvage, pour digérer tout ça, savoir à quel point tout ça était riche, important, généreux. Donc voilà, moi, c'est pour ça, à mon avis, qu'il y a un revival Lalou. C'est même pas un revival, c'est le résultat de graines qu'il a semées il y a 50 ans et qui poussent enfin, quoi.
Bah, c'est une belle métaphore. Fabrice Blin, on te remercie. On rappelle l'ouvrage que tu as coécrit avec Xavier Kawatopor, qui est paru chez Capricci, oui, qui s'appelle L'Odyssée de la Planète Sauvage. Et on rappelle également que La Planète Sauvage est ressortie dans une très belle édition chez Potemkin. Et Gandhar arrive au Chat qui fume.
Et Les Maîtres du Temps arrivent bientôt chez Tamassa aussi.
Oh, bah,
Le Maître du Temps, qui est le second long métrage de Lalou. Voilà.
C'est magnifique, c'est magnifique. Fabrice, merci beaucoup.
Hein, non, c'est moi qui vous remercie. Merci d'avoir fait ce retour avec moi sur Lalou, hein, qui en vaut la peine.
Vous écoutez Culture Prohibée, spéciale science-fiction et fantastique. Je vais vous parler de Enki Bilal. Enki Bilal, oui, maître de la bande dessinée, enfin, incontestable, mondialement reconnu. Et Enki Bilal s'est essayé au cinéma de science-fiction. Et contrairement à ce que l'on aurait pu croire, Enki Bilal n'a pas fait de film d'animation. Hein, il a fait des films avec des acteurs en live, hein, des films de cinéma. Et il a réalisé 3 films. trois films, hein, trois longs métrages, en tout cas. Trois longs métrages. Donc, il y a eu le dernier, c'est Immortel. Avant, il y a eu Tycho Moon. Et le premier, c'était Bunker Palace Hotel. Alors, Bunker Palace Hotel, qui est là, ressorti chez Rimini Édition. C'est pour ça qu'on vous en parle. C'est son premier film. Et qui est sorti en juin 89, donc c'est peu de temps avant la chute du mur de Berlin. C'est pour ça que le film il prend un peu une connotation annonciatrice, hein, de prophétique de ce qui va se passer. Et c'est pour moi le meilleur des trois films de d'Enki Bilal, sachant qu'après il va même se perdre un peu dans des effets numériques qui ont mal vieilli quand même à la revoyure, hein, quand on voit les films aujourd'hui. Là, on n'est pas du tout dans les effets numériques. Là, on est dans un pays, un endroit inconnu, une société très étrange qui a son quartier général dans un lieu caché sous terre, en fait. Hein, et il y a, pour ces dignitaires du régime qui sont là, qui attendent leur président, qui ont ouï dire qu'il y aurait peut-être des rebelles à la surface, qui sont servis par un personnel androïde, il y a comme un truc qui ne va pas parce qu'il y a des agents étrangers qui sont venus se glisser parmi eux. Hein, en fait, bien sûr, tout ce système va se mettre à dysfonctionner. Tout ce système va être déréglé, hein, par l'arrivée de personnages, qui n'étaient pas invités à la fête, si j'ose m'exprimer ainsi. Donc, comme beaucoup des BD d'Enki Bilal, le film Bunker Palace Hotel, il traite de régime totalitaire, et là, en particulier, de l'agonie, hein, d'un régime totalitaire qui est là complètement matérialisé à travers un tout petit espace. Le film a un côté claustrophobique, hein, puisqu'on ne sort pas de ces souterrains, de ce monde souterrain, hein, parce que c'est plutôt assez luxueux. C'est très particulier, hein, d'un point de vue architectural. Alors, on sent que Bilal doit beaucoup aimer Alain René. Il a débuté au cinéma avec Alain René, hein. Il avait fait l'affiche de Mon oncle d'Amérique. Il avait fait les décors de La vie est un roman. Et on sent que le Alain René, un peu expérimental, le René l'année dernière à Marine Bad, voilà, cet univers-là, on sent que ça l'a particulièrement marqué. Ce qui est intéressant aussi, c'est que on sent que chez Bilal, il n'a pas du tout envie de mettre de la BD en image, donc il n'adapte pas ses BD. C'est un scénario original. Et on sent bien qu'il n'aborde pas le cinéma comme la BD. Il a conscience que ce sont deux médias différents. Ça, c'est assez intéressant. Il y a une volonté de s'en démarquer. Maintenant, on va retrouver évidemment des éléments de ces BD, hein, dedans quand même. Hein. On va avoir un héros subversif. On va avoir une femme aux cheveux colorés. Voilà, on va dire ça comme ça. Et on va avoir ces fameux personnages, là, à crâne rasé, qui est interprété par un Jean-Louis Trintignant assez extraordinaire. Alors Bilal, c'est un Yougoslave qui a fui la dictature de Tito, donc on peut comprendre son point de vue sur le totalitarisme, hein. Et il va là mettre en scène à travers un film assez gris, quoi, hein, très, une ambiance très lourde. Hein, il va jouer des contrastes gris-bleu comme ça, quelque chose de très glaçant. Voilà, on est pétrifié un peu devant ce film qui met en scène des cadres assez stricts en vérité, où il y a évidemment assez peu de grands mouvements de caméra, de folie. Voilà, on sent une volonté de nous enfermer, d'enfermer ces personnages. Et le film, il est quand même aussi beaucoup, il doit sa réussite pour moi à la présence de Jean-Louis Trintignant, qui campe un personnage qui s'appelle Holm, hein, qui est une sorte d'homme politique un peu, voilà, qui nous révulse, quoi, quelque part, mais qui est, comment dire, un type dont on sent bien qu'il n'est pas clair, quoi. Mais, et ça, Trintignant, bon, il est né pour interpréter des mecs comme ça. Trintignant, il le fait très bien. Voilà. Et donc, dans le film, Trintignant le fait très bien. Et j'ai envie de dire que ce personnage qui cache un terrible secret, hein, que je ne vous révélerai pas si vous n'avez pas vu le film, c'est aussi ce qui fait le sel du film, en fait. Parce que quand Trintignant arrive, parce qu'au début, il y a ce personnage de rebelle et tout, bon, il est un peu fiévreux, un peu, bon, voilà. On va le suivre 5 minutes, mais en fait, c'est vraiment quand le personnage de Trintignant arrive, c'est-à-dire cette sorte de beauté du mal, du diable, là, une sorte de... comment dire, de méchant parfait, quoi, voilà. Et on a envie de voir jusqu'où il va aller, et puis surtout ce qu'il prépare à ce petit monde, parce qu'il leur prépare des trucs un peu particuliers quand même, voilà. Et ça donne un film, ma foi, alors c'est pas, vous n'allez pas voir un chef-d'œuvre oublié, ou voilà, c'est, mais par contre un film assez pessimiste qui est comment dire, un film où la conclusion laisse quand même bouche bée. D'ailleurs, on est même un peu en droit de la contester, j'ai envie de dire, cette conclusion. Et on peut même se demander, quand à la conclusion du film, si c'est pas l'œuvre d'un misanthrope, en fait, ce film. Hein, et la question reste posée, parce que devant tant de pessimisme, on peut effectivement rester interloqué. Alors, c'est un film d'une noirceur vraiment, vraiment impénétrable. Hein, je crois que c'est le cas de le dire. Donc, Bunker Palace Hotel, qui est donc sorti chez Rimini Éditions, et est à revoir aujourd'hui, tant le contexte historique qui est le nôtre, malheureusement, tend à aller vers un balbutiement de notre histoire, bien malheureusement. In the silent void of outer space, puny man matches his cunning against a monster from Mars running rampant, howling for all the flesh and blood on Earth. On va faire un petit bond en arrière dans le temps, les amis, pour aller en 1958, et on va parler de la fusée de l'épouvante. Alors, le film là qui est sorti chez Rimini Éditions, qui est considéré par certains comme un précurseur d'Alien. Bon, est-ce qu'on peut dire vraiment ça? Je ne sais pas. C'est un film d'Edward L. Kahn. C'est un classique de la série B US, hein, dont le script, effectivement, n'est pas sans évoquer un certain Alien, puisque le film se déroule dans le futur. Alors, je vous rappelle qu'il a été fait en 58. Hein. Donc, on est en 1973, et une première expédition humaine s'est posée sur Mars. Depuis, elle n'a plus donné signe de vie. Et donc, une nouvelle mission arrive 6 mois plus tard et découvre un seul survivant. Une forme de vie inconnue semble avoir décimé le reste de l'équipage. Alors effectivement, c'est ce que je vous dis, le script peut évoquer Alien. Mais, moi, il me paraît plus juste quand même de considérer que le Terrore nello spazio, le terreur dans l'espace de Mario Bava, est vraiment la source d'inspiration majeure du film de Ridley Scott, ne serait-ce que par de nombreux plans visuellement parlant, qui sont à la fois dans le film de Bava et qu'on retrouve dans le film de Ridley Scott quand on fait cohabiter les plans côte à côte, quand on fait des captures d'écran, ça paraît évident que Ridley Scott a vu le film de Bava. Par contre, effectivement, peut-être que Dan O'Bannon avait un petit souvenir de cette série B au moment d'écrire son scénario. Alors, quoi qu'il en soit, bon... Que vaut en fait aujourd'hui, à la revoyure, la fusée de l'épouvante, qui faisait vraiment partie de ces petites bandes de SF. Je me rappelle à l'époque où le fanzine Atomovision de Fabrice Lambeau paraissait, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, mais bon, un fanzine qui était top parce qu'il était fait chez un imprimeur et pas en photocopie, c'est vous dire où on en était à l'époque, tous les fanzines étaient en photocopie, hein, ce qui aujourd'hui n'existe quasiment plus. Eh bien, c'était vraiment un film qu'on voulait absolument voir. Et bon, en fin de compte, c'est un film assez modeste. C'est un film d'ailleurs modeste, parce que c'est signé par un réalisateur assez modeste, hein, qui a quand même signé à lui tout seul, il faut le faire, une centaine de films. Donc évidemment, quand on fait une centaine de films, on ne peut pas produire des chefs-d'œuvre sur chefs-d'œuvre. Donc une centaine de séries B, donc Curse of the Faceless Man, qui est plutôt sympathique, Voodoo Woman, qui est plutôt sympathique aussi, le fameux Invasion of the Saucer Men, qu'on a longtemps voulu voir à cause des craignos monsters de l'ami Jean-Pierre Putters. Et puis, souvent, en fait, c'était des films qui duraient une heure pour être placés dans des doubles programmes, des films solides, sans prétention, ayant comme unique but de divertir le spectateur. Bah, ça tombe bien, parce qu'en fait, c'est ce qu'est ce film, La Fusée de l'Épouvante. Il est tourné en 15 jours quand même, hein, faut le savoir. Hein, et il est écrit, alors ça c'est plutôt rigolo, par Jérôme Bixby. Et qu'est-ce qu'il a écrit aussi, Jérôme Bixby, les amis ? Il a écrit Le Voyage Fantastique de Richard Fleischer. Alors, évidemment... C'est fauché, donc on sort pas trop de la capsule. Hein. Bon, l'alien est assez insaisissable. Forcément, il le montre pas trop parce que le costume est assez pourrave en fait. Donc le réalisateur évite de le montrer parce qu'on voit bien les coutures. Et j'ai cru comprendre en plus qu'il y avait des problèmes avec l'acteur, enfin, le cascadeur qui a interprété le personnage, qui avait des petits problèmes d'alcoolisme. Enfin, c'était un peu compliqué à gérer. Et puis surtout. Alors, par contre, ce qui est beau, c'est le décor de la fusée. Il est signé Herman and Chobrun et il est vraiment sympathique. Bon, sorti de là, évidemment, aucune véracité scientifique existe dans ce film, évidemment, hein, puisque on voit que pour sortir dans l'espace, ils mettent des combinaisons non étanches. C'est un peu comme si j'y allais avec mon petit blazer, quoi, les gars. Hop, on va aller dans l'espace. Personne ne va m'entendre crier, et surtout personne ne va m'entendre crever. Il fume aussi. Ah, il fume dans le vaisseau. Ils sont dans le vaisseau pour combattre l'alien. Et ben ils n'hésitent pas. Alors déjà, on ne sait pas pourquoi ils ont ça dans le vaisseau, mais ils ont des grenades, des bazookas, et puis ils se tirent dessus dans le vaisseau et tout. Enfin, les gars, tout va bien. Ils utilisent même du combustible atomique, au cas où. Hein. Le film est une série B pour adolescents qui était conçue pour être en double programme. Donc moi, c'est avec un certain plaisir que... j'ai revu ce film que j'avais autrefois vu via une copie VHS quand même assez moche, sans sous-titres en plus. Donc là, c'est un petit plaisir de revoir ces films. Donc, La Fusée de l'Épouvante d'Edward Elkann, et c'est disponible en Blu-ray et DVD chez Rimini Édition. Et c'est conseillé par votre serviteur. Vous écoutez Culture Prohibée. Moins SF, en même temps, bon, un peu plus fantastique. Comment qualifier vraiment le cinéma de Wenders ? En même temps, c'est un peu compliqué, hein, voilà. Parce qu'il est un peu, j'ai envie de dire, multigenre, l'ami Wim Wenders, dont on a parlé cette année pour des émissions, surtout en particulier autour du autour du road movie. Là, Carlotta continue son travail, hein, donc alors il s'est sorti il y a quelque temps déjà, mais on n'en avait pas parlé, a édité dans un coffret, un très beau coffret ultra collector avec un très beau livre qui s'appelle Le ciel de Berlin, dans lequel Wenders revient lui-même sur son film, mais aujourd'hui, quoi. Les amis, moi, je voulais vous entendre un peu parler de ce film donc de Wenders, ce petit classique, sans doute peut-être son meilleur film, ou l'un de ses meilleurs, qui s'appelle Les ailes du désir.
Après La fusée de l'épouvante, évoquer Les ailes du désir, c'est quand même faire un peu le grand écart comme Jean-Claude Van Damme. Hein. Les ailes du désir, c'est un film qui peut désarçonner, pour moi c'est un film fantastique, hein. Donc on suit en fait deux anges, dont un est incarné par Bruno Ganz, qui se balade dans Berlin-Ouest, si je ne me trompe pas. Et ils observent les humains, ils se rapprochent d'eux, ils font preuve de compassion, ils les écoutent, mais sans pour autant avoir d'incidence sur leurs décisions, sur leur vie. Ils les entendent penser, on partage leurs peines, leurs joies. C'est aussi un film qui évoque, à travers donc, les pensées des êtres humains, l'histoire de Berlin, l'histoire de l'Allemagne. Il est quand même pas mal question de la Seconde Guerre mondiale, de ce qu'est devenu Berlin après la Seconde Guerre mondiale, cette scission, cette ville scindée en deux. Et il n'y a pas de scénario, en fait. D'ailleurs, Wim Wenders le dit dans les bonus, il n'y a pas de scénario. Quand ils ont commencé le film, il n'y avait pas de scénario. Et en fait, ils ont fait le film comme ça, sur deux anges qui errent, et qui observe les humains. Et il y en a un qui est incarné par Bruno Ganz, qui tombe amoureux d'une trapéziste dans un cirque un peu itinérant, hein, et qui tombe amoureux d'une trapéziste, et donc il veut devenir humain pour pouvoir aimer cette femme et être aimé de cette femme. Et toutes les parties, alors le film dure deux heures, un truc comme ça, enfin un petit peu plus de deux heures. Donc il y a toute une partie, une heure et demie à peu près, qui est filmé en noir et blanc, où ce sont l'errance des anges qui observent ces humains. Donc, c'est très élégamment filmé. Il y a des super mouvements de caméra. C'est très beau. Il y a un très beau noir et blanc. Mais ça peut désarçonner parce qu'il n'y a pas vraiment, d'intrigue, quelque part. Mais on peut se laisser porter par le film. C'est quand même pas très gai non plus, hein, parce que c'est toujours... C'est quand même un peu triste d'entrer dans... ce qu'ils entendent de la part des gens, etc. Et il y a aussi un autre personnage qui a une certaine importance. Il y a Peter Falk qui incarne son propre rôle. Enfin, son propre rôle d'une certaine manière, parce qu'il est aussi fictionnalisé, et qui vient jouer dans un film qui est tourné à Berlin, un film sur la Seconde Guerre mondiale. Donc, qui est très présente dans ce film. Et donc, en fait, le film devient en couleur quand Bruno Ganz devient humain. Donc, il abandonne son statut d'ange pour pouvoir rencontrer cette femme. Quand il devient ange, Bruno Ganz, il est à Berlin-Est, en fait, pour rencontrer cette femme, etc. Et la différence se fait parce qu'à Berlin-Ouest, le mur est tagué. À Berlin-Est, pour taguer le mur, vas-y, quoi. Tu auras un petit peu des difficultés. Donc c'est un film, c'est du fantastique, hein, il n'y a pas de violence, c'est plutôt un film très poétique, que moi j'ai redécouvert avec beaucoup de plaisir. Hein, je trouve que toute cette errance, je trouve ça vachement beau, je trouve ça vachement contemplatif. Pour moi c'est l'un des meilleurs films de Wim Wenders, hein, dans tout ce qu'il a fait, je pense que ça fait partie de ce qu'il a fait de mieux.
L'intrigue est peu complexe et le film prend énormément son temps. C'est surtout ça qui va un peu déstabiliser les gens. Après, l'un des trucs qui est vraiment remarquable sur ce film, c'est sa photographie qui est magnifique. Surtout au tout début, quand elle est noire et blanc, ça saisit immédiatement. Et à plusieurs moments, Wim Wenders va nous scotcher avec ses plans. Pour résumer le film, moi je dirais un peu que c'est un peu un film poupée russe. C'est-à-dire qu'on a un film qui est tourné à l'intérieur du film, on a une ville au final à l'intérieur de la ville, vu qu'on a deux Berlin et que les deux sont découpés mais pas de la même façon. Et à l'intérieur de l'histoire finalement, de suivre les gens, on a l'histoire d'une personne intégrée. Donc c'est vraiment un film poupée russe qui ressort. C'est un film philosophique mais qui prend énormément son temps pour raconter cette belle balade finalement.
Et ce qui est bien, c'est que cette histoire d'amour, finalement, elle est en filigrane. Elle est pas, il ne la conclut pas vraiment. C'est ça qui est beau aussi, c'est que ça flotte un peu. C'est vraiment une belle redécouverte.
Les ailes du désir, c'est donc disponible chez Carlotta au coffret Ultra Collector. C'est un film de Wim Wenders que nous vous invitons à voir où et à revoir. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec les films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland dit Le Loup-Garou Picard. And the last. But not the least, je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine. I can hear the most melancholy sound I ever heard. Walk and cry.